Alors notre Hippolyte s'est réconcilié dans les mines de Sardaigne avec le pape Poncien qui, comme lui, a été déporté. Et c'est le pape Fabien, leur successeur, qui fera ramener leur corps. Et pour bien montrer la réconciliation, ils seront inhumés le même jour en signe de et au même endroit. Voilà. Par exemple, dans le dernier livre de sa réfutation, là, le 10e livre qui était un peu le résumé, par exemple, donc Hippolyte avait, donc, qui attaque l'hérésie de Noé, donc qui est une hérésie monarchianisme, c'est-à-dire donner trop d'importance au Père par rapport au Fils et au Saint-Esprit. Alors il égratignait justement le pape Zéphirin, donc il ne trouvait pas assez... assez fort, et son archidiacre, justement, Calixte, l'ex-esclave là, qui va gérer tous les cimetières à Rome. Alors, donc, comme on le voit, quand Irénée oppose la multitude des sectes à l'unité de l'Église, cette Église, une, si vous voulez, est quand même bien traversée par des courants issus de traditions variées. Vous voyez, encore, on a la trace de cette origine double de l'Église. Voilà. Mais disons, la différence, c'est que l'on cherche l'unité, la communion, par le dialogue dans la charité, à l'intérieur de la grande église. Alors, avec Hippolyte, c'est un peu moins visible, hein, le dialogue dans la charité, mais malgré tout, il ne s'est pas coupé, hein, vous voyez, de l'église, comme ont pu faire, par exemple, Donna ou d'autres, ou Tertullien, etc. Donc, la différence, c'est qu'il y a une certaine... on n'est plus simplement face à des hérétiques, mais on est face à des gens qui n'ont pas la même idée, mais qui veulent rester dans l'unité de l'Église. C'est ça qui va stimuler la théologie, d'ailleurs. Et donc, pas simplement l'apologétique. Alors, par exemple, Irénée est un bel exemple de cette volonté de dialogue. Par exemple, avec la longue controverse sur la fixation de la date de Pâques, je vous avais déjà parlé de ça, hein. Eh bien, Irénée, lui, intervient auprès du pape pour qu'il rapporte son décret d'excommunication des évêques asiates, alors que lui-même soutenait la primauté romaine tout en étant un peu l'héritier de ce christianisme d'Asie mineure. Donc vous voyez, il est à la fois, il est un petit peu, enfin voilà, c'est grâce à Irénée qu'on a la liste des 12 premiers évêques de Rome, c'est lui qui, dans ses écrits, parle de la solidité de l'Église de Rome, etc., etc. Et en même temps, ben, il essaie de faire en sorte que la position de Rome ne soit pas non plus trop rude vis-à-vis d'une tradition théologique, liturgique, différente, donc celle des évêques d'Asie mineure, qui, vous vous souvenez, avait été évangélisée par le bon Philippe, et ça avait laissé donc des traces. Alors, on va passer maintenant, dans le deuxième paragraphe, aux premières écoles théologiques. Parce que vous voyez... Il va y avoir un besoin de discuter de tout ce donné transmis par la tradition, et en particulier liturgique, à l'intérieur même de l'Église, parce que plus on avance, plus l'Église croit, plus les questions aussi se posent, et les gens ont envie de savoir, etc. Et donc, maintenant, l'activité théologique ne va pas être uniquement tournée vers l'extérieur, en essayant de convaincre les païens ou les juifs, mais de défendre les chrétiens contre les hérésies gnostiques et autres, mais ça va être aussi un travail à l'intérieur pour mieux comprendre finalement ce dont on vit. Donc ça sera, et du coup le travail des premiers théologiens ne sera pas non plus simplement de en quelque sorte de résoudre les problèmes intellectuels de la communauté, mais tout simplement aussi d'approfondir les sources pour mieux en vivre. Alors, ces premières écoles théologiques, je crois que c'est le deuxième paragraphe, premières écoles théologiques, la première d'entre elles, c'est l'école d'Alexandrie. On peut plus parler d'école pour Alexandrie que pour Antioche. On appelait commodément école d'Antioche, en fait des théologiens qui pensaient un peu pareil sans être véritablement très unis les uns aux autres. Tandis que là, il y a une véritable, on peut dire presque une hérédité dans cette école d'Alexandrie. Alors, donc grand A, ah oui, donc ce ne sont pas encore des écoles de pensée, mais les premiers établissements où le christianisme est enseigné comme tel. Et donc la plus célèbre, c'est celle d'Alexandrie. Donc ce qui veut dire aussi, vous voyez, établissement. Hein. À Rome, on avait bien à l'époque de Justin une école philosophique. Donc là, on va avoir vraiment une école, alors, qui sera fragile, hein, parce que, par exemple, Origène, qui en sera un des représentants, son père sera, comment dire, martyrisé lors d'une persécution. Donc, même si l'Égypte passe en grande partie au christianisme, on est quand même à l'époque toujours de l'empire persécuteur. Donc, ce qui veut dire, c'est une église sans moyens et une église vulnérable, enfin, disons, qui a une situation précaire. Alors, grand A, l'école d'Alexandrie. Petit A, les écoles dans l'Antiquité, hein, en général. Alors, dans le monde gréco-romain, on a trois niveaux dans l'enseignement. Le premier niveau, c'est le niveau de base, c'est l'écriture et le calcul, l'équivalent du primaire. Oui, et alors le second niveau, c'est ce qui a produit l'agrégation de grammaire chez nous, hein, encore. C'est-à-dire, c'est l'enseignement sous le grammaticus. Hein, et le grammaticus, c'est celui, bien sûr, qui enseigne la langue. Donc, le premier des sept arts libéraux, et en particulier du trivium, qui est ce qu'on appelait les artes sermocinales, donc les arts du langage. Le premier, c'est la grammaire. Et puis le troisième niveau, eh bien, c'est la suite des arts du langage. C'est la rhétorique et la dialectique. Donc, qui sont les deux autres arts du langage qui complètent le trivium. Et ce qu'on a appelé le quadrivium, c'est-à-dire ensuite les quatre disciplines à partir desquelles on peut s'orienter, vers lesquelles on peut s'orienter à partir du trivium, c'est-à-dire de la maîtrise donc de l'écriture, enfin de la langue, la maîtrise je dirais, de l'art de persuader par les formes de la langue, la rhétorique, et l'utilisation de la raison, donc du raisonnement. De la, disons, entre guillemets, de la philosophie, et qui est la rhétorique. D'ailleurs, en Belgique, si je ne me trompe, ce que nous, on appelle la terminale, eux, ils l'appellent la rhétorique, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de classe de philosophie dans leur cursus, et c'est après. Et en Allemagne, c'est pareil, oui. Et puis, alors, après, vous avez les quatre autres. Alors, ça, c'est dérivé de ce qu'on appelait l'arbre de Porphyre. Et puis alors notamment Cassiodore à l'époque de Saint Benoît va un petit peu codifier ça. Mais là, bon, tout ça, c'est bien après, hein. Alors, les quatre autres disciplines sont l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Vous voyez, plutôt orientée vers les chiffres. La musique étant... Oui, la musique, ça fait... Parce que enfin, la musique chez les anciens... C'est davantage l'art des comment dire des rapports numériques entre les sons, hein. Et donc, en fait, je sais pas très bien ce que ça devait faire comme musique, mais en tout cas c'était très mathématique, hein. Ça ressemblait peut-être à du Boulez, je sais pas, ou du Xenakis ou des trucs comme ça, mais en tout cas c'était une musique qui était probablement peut-être moins sautillante que du Mozart, mais enfin donc était très axé sur les chiffres et les rapports numériques. Là, vous avez par exemple avec comment dire ah, j'ai oublié son nom, ce philosophe grec, Pythagore, là, un bel exemple de philosophie musicale, si l'on veut, ou de musique comprise comme philosophie. Voilà, donc tout ça c'est l'enseignement standard de toute personne cultivée dans l'Antiquité. Et ça va être tellement. Et comme les anciens avaient vraiment l'art de la tradition, et de la tradition un peu figée, eh bien, quand l'Empire deviendra chrétien, on continuera à enseigner avec les mêmes standards, les mêmes exemples, les mêmes citations que dans l'Antiquité païenne. Donc, ce qui ne sera pas sans poser des problèmes, parce que. Et c'est là que vous comprendrez l'ironie du songe de Saint Jérôme, qui s'entend dire par le Christ qu'il n'est pas chrétien, mais platonicien. Il lui dit, tu n'es pas chrétien, tu es platonicien. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il accordait trop d'importance à cet enseignement cet enseignement supérieur, qui avait toujours gardé finalement sa structure ancienne, antique. Et donc, y compris dans le choix des textes à étudier, on étudiait des fables païennes, enfin, toute une littérature païenne qui normalement n'aurait plus dû avoir cours. Au 4e siècle, au 5e siècle. Alors voilà. Et alors, au-dessus de ce troisième niveau, donc des arts libéraux, des sept arts libéraux, alors qu'on appelait libéraux parce que c'est ceux de l'homo liber, hein, de l'homme libre, eh bien, on a des enseignements, voilà, plus spécialisés. C'est l'école supérieure ou philosophique. Ou médecine, ou enfin voilà, des différentes, ou droit, ou etc. Qui plus tard d'ailleurs, quand l'université va être fondée au XIIIe siècle, eh bien on aura la même structure, on aura après l'école primaire qui est dans les paroisses et tout ça, les arts libéraux qui étaient déjà enseignés dans les monastères, etc., on aura ben, finalement des. Donc ça va être la faculté des arts, comme on dit. Les facultés des arts, c'est ça. Bachelier S-Arts, ça sera celui qui a fait toute cette chose. Puis le principe, c'est qu'on ne vieillit pas dans les arts. Et donc, non est senescendum in artibus. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ses études à la faculté des arts, eh bien, alors soit, bon, certains y enseignent, mais la plupart passent dans la faculté supérieure, donc là c'est la spécialisation médecine, droit, philosophie, théologie, enfin oui, théologie. Et là, les premières universités vont se spécialiser, par exemple la Bologne, ça sera la médecine, comme Montpellier, Paris, la théologie, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le droit à Bologne aussi. Bon. Ou Salerne qui fera médecine.
Salamanque, c'est quoi la spécialité? Salamanque, c'est quoi? C'est la première université.
Salamanque, alors Salamanque, ça viendra plus tard en Espagne. Oui, ce sera théologique. Hein. Alors, donc la plus célèbre de ces écoles, on pourrait dire post-secondaire, eh bien, c'est l'Académie platonicienne d'Athènes, qui date de moins 387, donc fondée par Platon, et qui dura jusqu'en 529, à l'époque de Justinien. Et c'est là où, par exemple, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze se sont connus et ont étudié ensemble. Alors, donc, elle a été fréquentée par d'innombrables pères de l'Église. Alors, d'un autre côté, il y avait un autre enseignement qui commençait à se faire jour, c'est l'enseignement, on peut dire, catéchétique, pour former les catéchumènes déjà, et pour former ceux qui forment les catéchumènes, enfin aussi donc pour former les évangélisateurs d'une certaine manière. Alors c'est le voilà, c'est donc des écoles catéchétiques qui se créent, et la plus connue précisément c'est celle d'Alexandrie, fondée en 217, qu'on appelait la Didascalée, hein, donc le lieu de l'enseignement, qui est une véritable école. Alors que, par exemple, Saint Justin, lui, à Rome, avait ouvert une école, mais une école où il était le seul maître, hein, où il avait des disciples, comme beaucoup d'écoles philosophiques, étaient en fait des centres de conférences tenus par un maître. Hein. Tandis que là, déjà, c'était plusieurs maîtres qui s'étaient agrégés pour former ce didascalé. Alors, cette école a été créée, fondée en 180, celle d'Alexandrie, par un certain Pantène, P-A-N-T-E-N-E, qui venait de Sicile. Alors, sachez que la Sicile, hein, c'est une population très mélangée. Hein. Il y a eu des Puniques, des Grecs, un peu de tout, des Phéniciens. Après, il y aura des Normands. Enfin, puis il devait y avoir un fond aussi originel de je ne sais pas qui. Alors, Clément d'Alexandrie, justement, et puis plus tard, Origène, vont y enseigner. Alors, Origène, lui, se transportera à cause de controverses en Syrie, à Césarée, en 230, où il aura une grande influence sur les théologiens de l'époque. Et puis, à partir de 260, il y aura une école d'Antioche, qui est fondée par un certain Diodore de Tars, Tars comme la ville de Saint-Paul. Et donc, il sera vraiment une école biblique et où les gens vont travailler surtout le sens littéral de l'écriture. Et ils sont bien placés parce que, vous voyez, en Syrie, on est proche de l'araméen, de l'hébreu, etc. Alors que à Alexandrie, évidemment, les langues sémitiques sont plus éloignées et on est en pleine culture hellénique. Et là, ce qui règne, évidemment, ce qui domine, c'est la pensée platonicienne. Et on va un peu platoniser l'écriture sainte, ou du moins on va faire une interprétation souvent allégorique de la Bible chrétienne, voilà, eu égard à la culture hellénique, comme Philon d'Alexandrie, qui était un juif, avait interprété à la manière grecque. Donc allégoriquement l'Ancien Testament, ce que nous on appelle l'Ancien Testament, tout simplement parce que l'Ancien Testament, ça passait pas auprès des mentalités grecques. Alors il fallait un petit peu adoucir le sens littéral et puis interpréter la lettre de l'Ancien Testament d'une manière plus philosophique. Alors on trouvera toutes sortes de... même déjà dans la traduction, on utilise des termes plus abstraits que les termes bassement, concrets de l'hébreu. Alors, donc justement, voyons un peu Philon. Alors Philon, c'est presque le contemporain de Jésus. Il est né en moins 20, et... il meurt en 42, vous voyez.
Philon. C'est Philon d'Alexandre.
Oui.
Il meurt et il est né en moins 20, c'est ça ?
Moins 20, oui.
Et meurt en
42.